Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. C'est l'un des dossiers les plus sombres de l'Église catholique de ces 50 dernières années, les abus sexuels en son sein. Le pape François avait promis la tolérance zéro. À quelques jours de sa visite en Suisse, des associations internationales ont saisi l'occasion pour lui lancer un message fort depuis le pays alpin. À Genève, elles ont annoncé la création d'un réseau mondial inédit, Ending Clerical Abuse, pour en finir avec les abus du clergé. Elles attendent du pape pas seulement des paroles, mais aussi des mesures fortes contre la pédophilie dans l'Église. Reportage auprès des victimes et des associations, Daphné Castaldi.
Ending Clerical Abuse.
End it now.
End it now.
C'est un acte de naissance, un moment historique pour eux. Depuis leur première rencontre au Chili en janvier, les associations de lutte contre la pédophilie dans l'Église se sont fédérées au sein d'une nouvelle ONG. François Deveau, victime et militant, veut ainsi faire pression sur l'Église. Il est cofondateur de La Parole Libérée en France.
L'objectif de ECA est d'afficher un vrai contre-pouvoir, dont la première arme sera la mobilisation de l'opinion publique. Elle est à la fois une action de lobbying et elle est aussi cet accompagnement des victimes, leur donner des outils. Des propositions qu'on a faites de mettre en place ce système de mise en lien de victimes du même abuseur pour permettre à ce que la dénonciation se fasse. Et c'est ainsi que l'institution catholique est contrainte d'agir.
Mexico, el obispo Alonso Gerardo Garza.
United States, Bishop Malone of Buffalo, New York.
From Poland, Cardinal Nietzsche.
Arzobispo Francisco Javier Martínez.
Photo à l'appui, les représentants de chaque association ont cité le nom des évêques accusés d'avoir couvert des prêtres, comme le cardinal Barbara en France ou le chilien Juan Barros. Miguel Hurtado est une victime. Aujourd'hui, c'est un activiste en Espagne où la pédophilie dans l'Église est encore trop peu dénoncée.
On espère que ECA va aider à changer la culture dans tous ces pays où les abus sont toujours endémiques. Ce ne sont pas des cas isolés. Cela fait partie d'un système, d'une méthode de couverture qui dure depuis des décennies. Et maintenant, cela doit finir.
Emotional abuse, neglect, have not spoken out about what happened.
À ses côtés, le Britannique Peter Sanders est une figure de la lutte contre la pédophilie. Il faisait partie de la commission pontificale pour la protection des mineurs jusqu'à ce qu'il claque la porte face à l'inaction du Vatican.
La fin du jeu sera d'écarter de leur ministère tous les membres du clergé qui commettent ou ont commis des abus sexuels et de signaler ces faits aux autorités publiques pour qu'elles puissent agir et protéger les enfants. Nous demandons que la tolérance zéro devienne une réalité et ne soit pas juste une opération de communication.
Dénoncer à la justice, lever la prescription, envisager des indemnités pour les victimes ou créer enfin le tribunal tant attendu pour les évêques négligents au Vatican, l'ONG ECA réclame des actions fortes. José Andrés Morillo, un des cofondateurs, espère que le mea culpa du pape sur la terrible gestion des abus sexuels au Chili et la réforme en cours ne s'arrêteront pas aux frontières de son pays.
La lettre que le pape a envoyée aux évêques et aussi à la communauté chilienne en parlant d'une culture d'abus dans l'Église, ça c'est une action. Moi je pense que le Chili c'est un cas symbolique de quelque chose qui se passe partout.
Italia. Il caso dell'arcivescovo, instabilmente l'arcivescovo Mario Delpini.
From Germany, Cardinal Reinhard Marx, Archbishop of Munich.
Matthias Katsch, lui, est membre du Conseil des survivants d'abus sexuels en Allemagne.
Comme on a commencé plus tôt, on est plus en avance qu'en Afrique, en Amérique latine, en Asie ou en Europe de l'Est. Mais le problème, comme partout, c'est que les évêques continuent à se comporter en monarque et sont incapables de dialoguer avec les victimes. J'attends que l'Église d'Allemagne, comme toutes les églises, ouvre les dossiers et lance des enquêtes pour en finir avec la dissimulation.
L'ONG très reconnue, Bishop Accountability, va également apporter son expertise. Sa directrice, Anne Barrett Doyle, recense les cas des prêtres mis en cause.
On a une base de données avec 4500 clercs américains. On a fait la même chose en Argentine, au Chili, aux Philippines, au Brésil. On commence en France et on le fait aussi en Pologne ou en Italie. Je suis sûre qu'on va beaucoup interagir avec ECA pour faire ce travail.
Pour mettre en place ces outils, la nouvelle ONG ECA doit maintenant trouver des fonds et faire entendre sa voix. En séminaire à Genève, l'organisation a déjà pu tisser des liens avec des responsables des Nations Unies.
Moscou. De 1928 à 1953, règne l'un des plus sanglants dictateurs de l'histoire. Son nom, Joseph Staline. Sa police secrète contrôle tout. Le football devient en URSS un combat politique et idéologique. Du pain et des jeux pour le peuple. Une arme pour le KGB.
J-3 avant le lancement de la Coupe du Monde en Russie. On se souvient que le choix de ce pays pour organiser le Mondial 2018 avait suscité des controverses. Car pour le Kremlin, le football a toujours été considéré comme une arme politique. C'est ce que nous explique notamment Régis Janté dans son livre « Football, le ballon rond de Staline à Poutine, une arme politique ». Régis Janté qui nous rappelle d'abord que la Russie n'a jamais été une terre d'élection du ballon rond.
La terre russe ne prête pas véritablement au football, il fait froid. Ça pose un problème jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs pour les questions de calendrier et aussi pour pouvoir jouer en même temps que les autres équipes européennes. Puisque à Moscou, on peut pas jouer pendant l'hiver, c'est juste pas possible quand il fait moins 30. Ce sont les Anglais, comme partout dans le monde, à vrai dire, qui vont amener le ballon rond. Donc ça commence l'histoire à Saint-Pétersbourg, en Russie, et puis après à Odessa aussi, en Ukraine, aujourd'hui, où le ballon arrive. Au départ, seuls les Anglais jouent au ballon, et puis les aristocrates russes, et puis la bourgeoisie qui est en train d'émerger. Et c'est vraiment autour de cette bourgeoisie que le football va exploser. Et puis, autour des terrains, il y a les ouvriers, les nouveaux citadins se mettent au football, sauvage, on dit le dicky football, mal vu par les autorités qui préfèrent les encadrer dans un cadre beaucoup plus traditionnel. Mais voilà, encore une fois, c'est la passion qui l'emporte.
Alors ces fameux bolcheviks n'y voient donc au départ qu'un sport bourgeois. Et finalement, ils changent d'avis, ils y voient l'intérêt de ce sport.
Effectivement, sans doute entraîné encore une fois par la passion du peuple pour ce jeu. Et puis, une dimension qui, à moi, me paraît fondamentale, c'est cette obsession de la Russie d'être reconnue en quelque sorte par l'Occident. En tout cas, de s'y comparer et de s'y faire reconnaître comme une puissance. C'est vrai à l'époque de Staline et c'est vrai à l'époque de Poutine aussi. Et donc, vers la fin des années 30, on va voir les dirigeants rouges finalement se laisser aller à accepter la manière de jouer au football bourgeoise pour pouvoir les battre les Occidentaux sur le terrain symbolique du sport.
Alors vous racontez justement la construction de ce football russe à travers certains clubs, à travers aussi l'histoire de certains personnages, comme les fameux frères Starostine, qui sont indissociables de l'aventure du Spartak.
Ce sont des fous de football. Ils n'ont pensé qu'au football toute leur vie. Je crois que les idéologies politiques leur sont passées par-dessus la tête, mais il a fallu qu'ils s'adaptent et ils ont développé des trésors d'imagination, de débrouillardise pour trouver de l'argent. Ce sont des gens qui vont trouver à créer des clubs sous la houlette, surtout des Komsomol, des jeunesses communistes, ce qui fait que le Spartak de Moscou, un nom très malin, c'est référence à l'esclave
Spartacus,
esclave romain, exactement, ce qui fait que ça va devenir l'équipe du peuple, qui va finalement damer le pion à l'équipe du NKVD, de la police politique, et qui est l'équipe du Dynamo de Moscou. Et donc on entre dans les années 30 dans une grande rivalité entre le Spartak de Moscou et le Dynamo de Moscou, et qui dit beaucoup de choses politiquement, puisque pour un supporter, par exemple, dont le père a pu être victime des purges staliniennes, choisi de supporter le Spartak, ça veut dire je suis contre cette URSS-là, l'URSS du NKVD, de la police politique, etc. Donc la politique est là, même, est presque un instrument de résistance tacite, en quelque sorte, non dit, mais même aux pires heures de ce régime totalitaire qu'était l'URSS.
Alors on saute quelques années, on arrive à Poutine aujourd'hui, qui lui n'est pas un fan au départ du ballon rond,
comme
pas
Staline.
Du tout. Ouais. Et pourtant, c'est bien en Russie que va se jouer la Coupe du Monde dans quelques jours. Et lui, finalement, il est convaincu de l'importance géopolitique, géostratégique de l'organisation du mondial.
Il y a 2 milliards de personnes qui vont suivre cette finale de la Coupe du Monde. Donc, il est conscient, comme tous les dirigeants du monde, à vrai dire, de l'importance d'en être l'organisateur, puisque pendant un mois, on va parler de la Russie tous les jours, et c'est l'occasion de donner une certaine image de la Russie pour mieux ensuite défendre les positions de son pays sur la scène internationale, pas sportive, internationale en général. On l'a déjà eu un avant-goût de cela avec les Jeux Olympiques de Sotchi en 2014, si on prête attention à l'esthétique des stades qu'on a construits, ultra modernes. Donc c'était une manière de donner une image positive de la Russie.
Alors un mot de l'affiche officielle de cette compétition. Elle est extraordinaire, on se croirait revenu aux beaux jours de l'URSS en fait.
Il y a de la nostalgie, vous avez raison, mais elle va aussi chercher ce qu'il y a eu de positif dans l'histoire de l'URSS. Sur l'affiche elle-même, c'est Lev Yashin, le grand gardien, toujours considéré aujourd'hui comme le meilleur gardien de l'histoire, qu'on surnommait l'araignée noire, et donc on le voit dans une tenue noire, etc. C'est une affiche faite selon les critères esthétiques, on va dire, du constructivisme russe, donc c'est la version artistique de l'idéologie bolchevique, peut-être avec effectivement une touche de nostalgie par rapport aux années 50, 60, où l'URSS en a terminé avec les famines, avec les purges. Ça reste une dictature, mais les soviétiques soufflent un peu à cette époque. Et d'ailleurs, dans le clip qui va être montré en même temps que le lancement de cette affiche, on fait référence à Gagarine, premier soviétique à être allé dans l'espace. C'est une manière de mettre en valeur un des grands succès positifs de ce qu'a été l'URSS, montrer combien elle est une puissance mondiale, finalement, à travers cela.
Régis Janté et Nicolas Jallot sont également les auteurs d'un documentaire récemment diffusé sur France 5. Récupérer, recycler, remettre en vente, une démarche citoyenne et écologique qu'adoptent de plus en plus de militants, mais pas seulement. En Suède, c'est une ville qui a décidé de transformer le plomb en or. La municipalité d'Eskilstuna, à l'ouest de Stockholm, a ouvert il y a 3 ans un centre commercial qui ne vend que des objets d'occasion collectés auprès des particuliers. Et ça marche. 700 clients par jour, une dizaine de magasins, un café et un centre de conférences qui ont généré un chiffre d'affaires d'1 million d'euros. Et c'est le reportage sur place de Laurent Berthaud.
En banlieue d'Eskilstuna, le bâtiment rouge de Retuna ne passe pas inaperçu avec ses 5000 mètres carrés sur 2 niveaux. À l'extérieur, on peut se contenter de jeter les déchets verts, les vieux pneus, le métal ou le plastique dans de grands containers. Mais souvent, c'est vers le quai aménagé sur le côté du hangar que se dirigent les automobilistes. Anna Bergström, coordinatrice de Retuna.
Ici, on est dans la zone de déchargement des objets. Dès que les particuliers garent leur voiture devant la porte, des gens de l'équipe sortent pour les aider à vider leurs coffres. Inutile de vous dire que le week-end, on a énormément de dépôts. Dans un premier temps, on entasse tout ici, dans ce grand hall. On fait juste un tri entre les gros objets et les petits. Les commerçants peuvent venir prendre ici ce qu'ils veulent, soit pour l'emmener dans leur magasin, soit pour le ranger dans leur zone de stockage.
Ce sont surtout les 14 employés municipaux qui, toute la journée, remplissent les boxes des différents commerçants au rez-de-chaussée.
Here are all the shops, the posts.
Voilà les zones de stockage. C'est l'endroit où chaque commerçant vient voir quel article il va conserver et quel article va repartir directement au recyclage s'il n'a pas d'intérêt. C'est vraiment leur rôle de trouver comment réparer l'objet si nécessaire, comment en faire autre chose au besoin, et enfin d'en fixer le prix. Les commerçants s'occupent à la fois de tenir leur magasin, mais aussi de produire et designer les produits qu'ils vendent.
Dans les réserves, nous croisons la fleuriste Maria Larsson, son chariot débordant de vieux pots de fleurs. Nous la retrouvons au premier étage de Retuna, dans son magasin Ecoflore.
Toutes les plantes vendues ici ont poussé sans aucun engrais ni pesticides. Et tous les pots que je vends sont d'occasion. Et franchement, cela ne se voit pas. Ils sont en très bon état. Je les ai juste nettoyés et ils sont comme neufs. Ceux qui sont trop moches ou qui ne se vendent pas repartent au recyclage. Et vous voyez, là, je vends aussi des pots en cuir. Je les fabrique à partir de vieux blousons ou de sacs que je découpe en fines lanières.
Juste en face, un antiquaire qui propose entre autres une vieille horloge du XVIIIe siècle. J'y retrouve Eric, un client habitué des lieux. Il adore le principe.
Avant, je gardais bien trop de choses. Un jour, je suis allé dans mon garage et je me suis dit, ça, je n'en ai pas besoin. Ça non plus. Quelqu'un d'autre en aura plus besoin que moi. Ensuite, j'ai fait pareil dans mon appartement. J'ai apporté plein de choses ici. Et j'en ai trouvé aussi pas mal. J'ai acheté beaucoup de vieux meubles ou de vieux cadres, mais aussi beaucoup de très jolis vêtements pour mes petits-enfants.
Un peu plus loin, justement, la fameuse boutique de puériculture.
Alors ici, on a des très très belles poussettes, mais vraiment des belles poussettes. Hein. Et là, je vois 500 couronnes suédoises, ça fait 50 euros. Et elle est vraiment prête à l'emploi, elle est super, super nickel. Ici, tout est super bien présenté, c'est propre, c'est beau, les jouets sont lavés, nettoyés.
I'm washing everything.
Je lave et je nettoie tout ce que je vends. Rien que ça, ça me prend plusieurs heures par jour.
Avant d'ouvrir son enseigne, Mariotte travaillait déjà dans le commerce, mais elle a eu envie de passer à autre chose.
Je me suis dit que je devais faire quelque chose. Nous jetons bien trop d'objets à la poubelle. Voilà pourquoi je me suis retrouvée ici, avec de nouveau beaucoup trop de travail.
Eux non plus ne chôment pas. Quatre jeunes gens d'origine syrienne. Ils ont ouvert Recomputed, qui répare, entre autres, les lecteurs CD et DVD, mais où l'on trouve des postes radio des années 40, des télés des années 70 et des magnétoscopes des années 80. Son gérant, Amiad.
We have lot of anti-collectors.
Il y a beaucoup de collectionneurs qui viennent ici et qui achètent pour un très bon prix des pièces uniques. Mais sinon, on vend des ordinateurs, des télés, des objets neufs aussi, comme des haut-parleurs, des câbles. Et depuis qu'on a ouvert, il y a 3 ans et demi, notre chiffre d'affaires progresse de 10% par mois, donc c'est bien.
And that's good.
Au rez-de-chaussée du supermarché, une boutique de sport où l'on trouve des vélos de 50 à 100 euros, un magasin de matériaux de construction et surtout un grand espace qui vend vêtements, vaisselle et babioles. J'y retrouve Bengt.
To look for some bargains.
Je cherche la bonne affaire, un jean et une veste.
Jeans, jacket. I bought before,
ici, j'ai déjà acheté un thermos à café, des petites choses pour la cuisine. C'est bien d'acheter d'occasion. Et si en même temps, je peux faire un petit geste pour l'environnement, pourquoi pas?
Retuna, c'est aussi un centre de formation au design du recyclage, ou comment fabriquer de beaux objets à partir de déchets. Ce n'est pas la matière première qui manque. Retuna récupère tellement de tables, de chaises et d'armoires que la structure municipale envisage aujourd'hui d'équiper toutes les écoles de la ville et même au-delà avec ses meubles d'occasion.
L'apprentissage des langues étrangères progresse selon Eurostat. 84% des écoliers européens apprennent au moins une langue étrangère. C'est 16% de plus qu'en 2005. Mais certains pays sont à la traîne, comme la Hongrie. Les jeunes Hongrois sont même les derniers de la classe, Florence Labruyère.
Si les Hongrois sont réputés pour être bons en maths et en informatique, les langues vivantes ne sont pas leur point fort. Seuls 37% des Hongrois âgés de 25 à 65 ans parlent une langue étrangère, alors qu'en Pologne, ils sont 62% et en Slovaquie, 85%. Les Hongrois figurent au dernier rang du classement d'Eurostat. Alors pourquoi sont-ils les cancres de la classe? Première raison, souvent invoquée, le hongrois est une langue à part qui ne fait pas partie de la famille indo-européenne. Cela expliquerait les difficultés des madiarophones à apprendre l'anglais, l'italien ou le français. Mais cet argument ne tient pas la route. Le finnois n'appartient pas non plus à la famille indo-européenne. Et pourtant, les petits finlandais sont très doués en langue. La vraie raison serait en fait le manque de formation des enseignants hongrois. Pendant leurs études à l'université, les futurs professeurs d'anglais analysent les pièces de Shakespeare, mais ils n'apprennent pas vraiment à enseigner l'anglais comme une langue étrangère. Résultat, des cours ennuyeux et monotones. Les élèves apprennent des listes de vocabulaire par cœur et écoutent, en bâillant, leurs professeurs expliquer des règles de grammaire. Quant aux manuels scolaires, ils ne sont pas toujours adaptés aux madiarophones. Ainsi, le livre de français le plus couramment utilisé jusqu'ici a été écrit pour des petits Italiens. Mais cela va peut-être changer. Un groupe de professeurs vient de publier un nouveau livre d'apprentissage du français. Intitulé « Talent », il raconte l'histoire d'une bande de jeunes qui participent à une émission de télé-réalité. Vivant et plein d'humour, ce nouveau manuel scolaire a été conçu pour des Hongrois.
À la réalisation, il y avait bien sûr Françoise Grelot. Vous pouvez continuer à nous suivre sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. À demain.